Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. L'indépendance de la justice. La question est devenue à part entière un sujet européen. Depuis que Bruxelles conteste les réformes orchestrées dans plusieurs pays européens, car peu respectueuses de l'indépendance des magistrats, et surtout depuis qu'un pays, la Pologne, conteste ce droit de regard de l'Union européenne au nom de sa souveraineté. Dans plusieurs pays membres, elle est mal en point, cette justice, et son état de délabrement ou de dépendance au pouvoir va de pair avec une corruption endémique. Le meilleur exemple est sans doute à chercher en Ukraine. Le président élu en 2019, Volodymyr Zelensky, en a fait le cœur de son programme. Il a adopté une loi anti-oligarque, créé un bureau et une haute cour anti-corruption. Mais la justice traîne des pieds. C'est le reportage à Kiev de Stéphane Sioran.
L'audience vient juste de reprendre, donc on parle un peu doucement. On est aujourd'hui à la Haute Cour anticorruption, un tout nouveau tribunal qui a été créé il y a seulement 2 ans pour traiter spécialement des questions de corruption. On est assis tout au fond de la salle avec Irina Sali, une chroniqueuse judiciaire. C'est la rédactrice en chef du média spécialisé Reporter au tribunal. À vrai dire, on n'entend pas très bien les magistrats. Ça parle de procès achetés, d'enveloppes en liquide de 2 500 $. Mais avec Irina, on a comme l'impression que le verdict, c'est pas pour aujourd'hui.
Aujourd'hui, c'est l'audience d'un juge d'instruction de la région de Kiev. Il est accusé d'avoir reçu un pot de vin. Plusieurs fois, l'audience a été reportée en l'absence de l'avocat. Cette fois encore, il ne s'est pas présenté sous prétexte d'un enterrement à Odessa. Alors l'audition a été reportée à mi-décembre. Malheureusement, ça arrive souvent. Parfois, ils prennent pour excuse les embouteillages ou une panne de voiture. Généralement, ils le font intentionnellement car il y a des délais de procédure au-delà desquels les charges peuvent être abandonnées.
Il faut savoir qu'en Ukraine, dans les tribunaux, le système de valeurs est complètement inversé. Les parties civiles n'ont pas leur voix au chapitre, ce qui provoque des situations absurdes ou proprement scandaleuses.
La loi ukrainienne offre beaucoup de garanties aux accusés. Souvent, les juges ont peur de juger. Par exemple, un haut fonctionnaire du ministère de la Défense, accusé d'avoir détourné 16 millions d'euros sur des marchés publics, a échappé à toute poursuite parce que 7 années s'étaient écoulées.
Ce genre de situation est monnaie courante. Alors, depuis la révolution de Maïdan, tous les gouvernements se retrouvent sous pression. De la part de la population, qui considère que les dysfonctionnements de la justice sont le problème numéro un du pays, et puis de l'Union européenne, qui investit beaucoup d'argent en Ukraine pour que celle-ci révolutionne son secteur judiciaire. Il s'agit de donner plus de moyens et de ressources humaines, mais aussi de garantir l'indépendance des tribunaux. Mais si on prend le problème à la racine, la réforme globale du système ne marche pas. Et pour cause, les juges eux-mêmes sont le maillon le plus corrompu de la chaîne. C'est le constat sévère réalisé par Mikhailo Jernakov, un jeune juge administratif devenu activiste. Il dirige De Jure, la principale ONG pro-réforme du pays.
Pratiquement tous les organes policiers et judiciaires sont totalement corrompus. Tout le monde verse des pots de vin et tout le monde se protège. La mafia des juges est une réalité en Ukraine. Elle est assez similaire au crime organisé. Elle dispose de son propre code de conduite. Pendant 4 ans, nous avons passé au crible des milliers de juges et nous avons conclu qu'un tiers d'entre eux ne correspondent pas aux standards éthiques et professionnels.
Mikhailo Jernakov ne croit pas vraiment aux réformes. Pour lui, il faut casser un système juridique qui plonge ses racines dans le système soviétique et qui s'est perpétué à l'ère oligarchique.
Maintenant, nous reconstruisons à partir de zéro certaines des institutions judiciaires. Et nous avons déjà mis en place une excellente infrastructure anticorruption pour traiter des cas de corruption grave. Mais ce qui est le plus important, c'est de créer un mécanisme de sélection pour les juges, mais également les avocats, les procureurs, qui vont travailler à un système respectueux de l'intégrité et de l'état de droit, et non pas à l'exact inverse. Je suis plutôt optimiste car nous n'avons jamais eu de législation aussi ambitieuse. Je crois qu'on va enfin réussir.
Car enfin, timidement, les politiciens semblent prendre la mesure du problème. Récemment, Volodymyr Zelensky a dissous la haute commission de qualification des juges, qui n'était autre que l'organe suprême de cette mafia des magistrats. Le Conseil supérieur de la magistrature est en passe d'être restructuré. Il comportera désormais des experts indépendants, européens et américains. Pour Yaroslav Yurchichin, ancien directeur de Transparency Amnesty International, député du parti d'opposition Golos, une formation réformiste. C'est une question de survie et d'avenir européen pour l'Ukraine.
L'Europe, ce sont des valeurs et la possibilité de pratiquer le libre-échange. Se battre contre la corruption, c'est assurer la sécurité des investissements. Or, nous avons beaucoup d'exemples d'investisseurs internationaux qui viennent en Ukraine. Ils créent une affaire, mais ensuite perdent tout à cause de décisions judiciaires étranges. Selon les estimations de notre centre de stratégie économique, si l'Ukraine combattait la corruption comme l'a fait la Pologne, chaque foyer gagnerait chaque année $200 supplémentaires. Le salaire mensuel des Ukrainiens est de $200 par mois. Donc c'est vraiment une somme importante.
Reste à savoir si Volodymyr Zelensky aura le courage d'aller jusqu'au bout de la réforme. Très honnêtement, il est encore permis d'en douter, car désormais les premières enquêtes anticorruption visent son propre camp politique et même certains de ses proches.
Et en Bulgarie, le sujet est revenu sur le devant de la scène politique depuis les élections législatives du week-end dernier. C'est un nouveau mouvement anticorruption dirigé par Kirill Petkov qui est arrivé en tête. Il promet une réforme de la justice qui est demandée depuis plusieurs années par Bruxelles. Et le maillon central de cette transformation, c'est le procureur général, tout puissant, trop puissant, à Sofia, Damien Vodenicharov.
Ivan Gechev, c'est le nom du procureur général actuel, une figure pour le moins controversée. Les manifestations de 2020 demandaient la démission du gouvernement, mais aussi celle d'Ivan Gechev. Même avant sa nomination au poste en 2019, Gechev a provoqué une vague d'indignation en déclarant ne pas être en faveur de la séparation des pouvoirs, ou encore de se définir comme un instrument entre les mains de Dieu. Fin de citation. C'est d'ailleurs un raid très musclé et très médiatisé de son bureau dans les locaux du président de la République qui a déclenché la vague de mécontentement de l'été 2020. Ce qui à son tour a profondément bouleversé le paysage politique dans le pays. Le gouvernement a démissionné, 3 élections législatives anticipées se sont tenues depuis, sans dégager de majorité au Parlement pour élire un gouvernement. Depuis 2007 et son adhésion à l'Union européenne, la Bulgarie est scrutée de près sur ses réformes au sein du système judiciaire. Et jusque-là, les rapports ne disent rien d'encourageant quant à la conduite de cette réforme. Un problème majeur est le fait que le procureur général est pratiquement intouchable. La réponse du principal intéressé, tous ces procureurs subordonnés peuvent ouvrir une enquête sur leur patron. Un argument peu convaincant qui a poussé le gouvernement de l'ancien Premier ministre Boyko Borissov et sa majorité au Parlement à faire preuve d'imagination. Le poste d'un procureur spécial, qui a pour seule fonction d'enquêter sur le procureur général, a donc été créé, mais il a été rejeté par la Cour constitutionnelle. Il va donc falloir à nouveau mettre en place une réforme du système judiciaire. Celle-ci consisterait à mieux définir les responsabilités du procureur général, mais aussi à garantir l'indépendance et l'immunité des hauts magistrats qui seraient chargés du contrôle de sa fonction. Traîner les pieds cette fois-ci met en danger les fonds destinés à la Bulgarie dans le cadre du plan de relance pour l'Europe, destiné à soutenir les économies des pays membres après la crise sanitaire. Estimé à 7 milliards d'euros, l'addition risque d'être très salée.
Et c'est un feuilleton qui empoisonne les relations entre la Pologne et l'Union européenne. Dernier rebondissement, une amende d'€1 million par jour infligée à Varsovie pour n'avoir pas revu sa copie sur la réforme de la justice et plus particulièrement sur la chambre disciplinaire de la Haute Cour, une nouvelle entité chargée de sanctionner les magistrats. On le sait, la Pologne estime que l'Europe ne devrait pas avoir son mot à dire sur ces réformes judiciaires qui relèvent de sa souveraineté. Pour en parler, on retrouve notre correspondante à Varsovie, Hélène, bienvenue. Hélène, où en est-on de ce différend entre Bruxelles et Varsovie ?
Alors, à vrai dire, on en est toujours au même point depuis que le 7 octobre, le tribunal constitutionnel polonais a réaffirmé la préséance du droit polonais sur le droit européen. Et surtout, on en est au même point sur la chambre disciplinaire de la Cour suprême, qui est une institution qui pose problème à Bruxelles, car elle a été mise en place en 2017 par le pouvoir en Pologne. Et elle n'a toujours pas été suspendue, alors que c'est bien elle qui est à l'origine du différend actuellement entre Bruxelles et Varsovie. Et c'est sa suppression que demande la CJUE et qu'elle a d'ailleurs demandé à force d'amende d'€1 million par jour que paye désormais Varsovie.
Et qu'est-ce qu'on reproche sur le fond à cette chambre disciplinaire ?
Alors, cette cour disciplinaire dont on avait déjà annoncé la suppression à Varsovie cet été, mais qui n'a toujours pas eu lieu dans les faits puisqu'elle continue à se réunir et à juger actuellement. Donc cette cour disciplinaire, ce qu'on lui reproche surtout, c'est de ne pas être assez indépendante vis-à-vis du pouvoir, donc d'être trop à la botte de Varsovie et de servir une cause politique. Et elle fait partie, cette chambre disciplinaire, des nouvelles institutions qui ont été mises en place par le ministre de la Justice, notamment. Depuis 2015, on a eu affaire à tout un tas de réformes de la justice en Pologne, depuis le retour du PiS au pouvoir, le pouvoir conservateur. Et toutes ces réformes ont mené à diminuer l'indépendance des juges et des institutions judiciaires. Donc notamment, le tribunal constitutionnel est devenu politisé, la Cour suprême l'est devenue en partie, le Conseil de la magistrature est désormais affilié au pouvoir à Varsovie. Et cette chambre disciplinaire de la Cour suprême a déjà suspendu plusieurs juges, dont le plus connu est peut-être le juge Igor Tuleya, qui ne siège plus depuis un an et dont le salaire a été réduit de 25%.
Que lui reproche-t-on ?
On reproche au juge Tuleya tout simplement d'avoir ouvert au public une audience qui concernait le budget au Parlement polonais en 2016.
Et le gouvernement prépare toute une nouvelle série de mesures très controversées. Quelles sont-elles ?
Oui, on a appris effectivement de la part du ministre de la Justice, Zbigniew Ziobro, qu'il y aurait des réformes conséquentes dans l'organisation de la justice en Pologne. Il s'agirait notamment de supprimer un échelon de la juridiction actuellement en vigueur en Pologne. Mais à vrai dire, les experts ne redoutent pas tellement cette suppression d'échelons, mais plutôt les réformes qui se mijotent autour de la Cour suprême. On devrait retirer le pouvoir de cassation de la Cour suprême polonaise et la moitié de ses juges devraient être remerciés. Ce qui risque de rendre un peu moins indépendante cette institution qui tenait encore tête au pouvoir jusqu'à présent.
Merci Hélène, bienvenue, à très bientôt. Et en Italie aussi, le gouvernement et les plus grands spécialistes du droit sont en train de travailler sur une réforme de la justice pour la rendre à la fois plus rapide et plus efficace, avec une différence de taille avec la Pologne. C'est avec l'aide de l'argent européen que se met en place cette refonte des instances judiciaires. Les explications de Cécile Debarge.
C'est un engagement que l'Italie a promis de tenir d'ici au printemps 2022. Parmi les objectifs annoncés de son grand plan de relance, dont une partie est financée par l'Union européenne, la réforme de la justice est l'un des chantiers les plus titanesques. Le Parlement a déjà entériné les grandes lignes directrices de cette réforme après des débats houleux. L'une des clés de voûte de cette réforme est de rendre plus rapide les procès et plus efficace le fonctionnement de la justice. Concrètement, elle prévoit par exemple de réduire à 2 et 1 an la durée des procès en appel et en cassation. Certains magistrats se sont pourtant déjà montrés très critiques de ces propositions. Ils craignent que cela ne rende impossible les procès complexes, comme c'est souvent le cas lors des procès contre la mafia, qui durent parfois des années. La ministre de la Justice, Marta Cartabia, promet que la réforme ne créera aucune zone d'impunité et que toutes les précautions seront prises pour que ce ne soit pas le cas. Pour ce faire, elle a constitué pas moins de 5 commissions et fait appel à des juristes de tous bords pour rédiger les textes et déterminer les nouvelles lignes directrices. Chaque commission est composée de 48 magistrats, avocats ou professeurs universitaires, dont certains grands noms du droit italien, comme 2 anciens présidents de cours de cassation. À leur côté, une équipe de techniciens du ministère de la Justice rompue à l'écriture des textes. Parmi les différents groupes de travail, 2 grands thèmes concentrent l'essentiel des débats, la nouvelle organisation des procès et le système de sanctions pénales.
Soldi, 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 tanti soldi, beati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
Et pour notre chronique en un mot, on a choisi de vous expliquer un drôle de mot de la langue italienne. Avec la pandémie, on a pris l'habitude de payer de plus en plus avec nos cartes et de délaisser le cash. Est-ce une tendance de fond ? En tout cas, comme l'a constaté notre correspondante Blandine Hugonnet, on parle de plus en plus en Italie de débancarizzazione, la débancarisation.
Débancarizzazione, c'est un mot que spécialistes et journalistes italiens ont de plus en plus à la bouche. Débancarisation en français, si on le traduit littéralement, un terme apparu pour parler d'un phénomène récent, celui du manque de guichets automatiques en Italie. Dans les rues de la capitale, si les distributeurs de billets n'ont pas l'air de manquer, les habitants remarquent le changement comme ce Romain d'un certain âge.
Là, il y avait un bancomat. Il a été remplacé par une boutique chinoise. Dans ce quartier, il y en avait pourtant plein avant.
Pas de quoi rassurer non plus Mauro. Le terme de débancarisation donne à cet habitant de la côte adriatique un sentiment d'abandon.
Je crois que c'est un manque de culture, de ne pas comprendre ce que représentent nos banques sur le territoire. Elles sont là pour nous, il y a une proximité, ça nous rend service. Alors oui, aujourd'hui, tout change, on doit tout faire en ligne. Mais moi, j'ai dit à mon banquier, si vous fermez le guichet automatique, je trouverai une autre banque.
C'est la FABI, la Fédération des banquiers italiens, qui a lancé l'alerte sur ce phénomène défini par le mot débancarisation. Aujourd'hui, 2800 communes sont dépourvues de distributeurs. Un processus continu qui touche toute l'Italie, prévient le secrétaire général Lando Maria Sileoni.
Les banques sont en train de laisser un vide sur le territoire. De nombreux maires de différentes petites et moyennes localités s'en plaignent dans tout le pays en ce moment. Et puis en Italie, la situation est grave dans le sud du pays, y compris dans les îles où la numérisation est encore loin d'être assimilée. Ce sont des personnes qui utilisent très peu Internet et continuent toujours d'aller physiquement à la banque.
Sauf que pour réduire leurs coûts, depuis 2010, les banques ont fermé 10 000 agences locales et bancomates. Ce terme de débancarisation illustre surtout la digitalisation de l'économie italienne, explique Andrea Ferretti, professeur de sciences économiques et bancaires à l'Université Louis de Rome.
Il y a 10 ans, l'objectif principal de toutes les banques italiennes, c'était d'avoir une agence dans chaque localité. Et à un moment donné, on a compris que ce n'était plus nécessaire, donc il y a eu une débancarisation, parce que les banques se sont regroupées entre elles, et parce que ça ne sert plus à rien d'avoir une banque tous les 20 mètres. Car aujourd'hui, la majorité des gens font toutes leurs opérations bancaires depuis chez eux, sur Internet, etc.
Les retraits de billets ont d'ailleurs chuté de 20% cette année en Italie. Un effet de la pandémie, mais aussi de mesures, comme un jeu de loterie réservé à ceux qui utilisent leur carte bleue, ou un système de cashback, de remboursement sur les paiements électroniques. Les gouvernements successifs tentent d'inciter à passer à la monnaie 2.0 et à abandonner les distributeurs et les espèces. En Italie, c'est avant tout une stratégie politique pour lutter contre l'évasion fiscale, rappelle l'économiste Andrea Ferretti.
Même pour l'Italie où tout se payait en cash, désormais il y a de nouvelles règles anti-fraude encore plus sévères. Par exemple, aujourd'hui, une transaction en cash entre particuliers, donc non tracée, ne peut pas dépasser les 2000 euros. Et dès janvier prochain, ça va baisser à 1000 euros.
Mais le mot débancarizzazione ne fait pas que des heureux, car les Italiens ont leurs habitudes. Pour la moitié de leurs achats, ils préfèrent encore payer en espèces. D'autant que beaucoup de commerçants n'acceptent pas la carte de crédit. Parmi les clients, les personnes âgées sont les plus mises en difficulté par la disparition des guichets bancaires, en particulier en Ombrie, la région de Pérouse, dans le centre de l'Italie. C'est la première touchée par cette débancarisation. 20% des distributeurs y ont disparu en 5 ans.
En Ombrie, il y a des communes, et pas que des petites, où d'ici peu les citoyens devront parcourir plus de 30 km pour trouver un distributeur pour les retraits bancaires.
Il fallait donc vite trouver une solution, explique Franco Baldelli. Cet entrepreneur dirige un réseau de pharmacies en Ombrie et il vient de lancer dans sa région une initiative appelée PharmaCash. Depuis le 1er novembre, des guichets automatiques sont installés à l'intérieur même des officines. Et si ce projet fonctionne bien au niveau local, à défaut de distributeurs de banque à proximité, dès février prochain, les Italiens pourront se rendre à la pharmacie pour retirer de l'argent dans toutes les régions de la péninsule. Preuve que malgré l'apparition du mot débancarisation, petite monnaie et billets ont encore de beaux jours devant eux en Italie.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr à la rubrique podcast et sur les réseaux sociaux. À bientôt.